Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Radio Orient, il est midi, voici votre rendez-vous d'information avec François-Xavier de Calonne et Wallis Glaise. Les titres de votre rendez-vous d'information avant le sommet de Doha. Le président iranien exhorte les pays musulmans à rompre tout lien diplomatique avec Israël. Notre dossier du jour, la Turquie, le principal parti d'opposition au président turc. Le CHP attend bientôt une décision judiciaire, une décision qui pourrait chambouler sa direction. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue hier en rassemblement à l'appel du parti d'opposition. On y revient dans cette édition. Un sommet arabe et islamique d'urgence s'ouvre aujourd'hui à Doha au Qatar pour discuter de la riposte face à l'attaque israélienne inédite qui a visé la semaine dernière des responsables du Hamas au Qatar, pays longtemps resté en retrait des conflits directs de la région et habitué à jouer un rôle de médiateur. Le président iranien, lui, de son côté, a invité les pays musulmans à rompre leurs relations diplomatiques avec l'État hébreu. En parallèle, le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé en Israël pour rencontrer le premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a salué la solidité de l'alliance entre les deux pays. Et de son côté, le président américain Donald Trump, qui a appelé Israël à la prudence tout en qualifiant le Qatar d'allié exceptionnel des États-Unis. Palestine. Les bombardements israéliens sur Gaza se poursuivent. 17 Palestiniens ont été tués depuis l'aube, selon des sources médicales et médiatiques. Le ministère britannique de la Santé a confirmé l'arrivée en Grande-Bretagne d'un premier groupe d'enfants malades et blessés de Gaza pour y recevoir des soins. Après plusieurs reports, la flottille internationale de Gaza a quitté la Tunisie aujourd'hui pour mettre le cap sur le territoire palestinien dans le but de briser le blocus israélien et d'ouvrir un corridor humanitaire. Je cite, nous essayons d'envoyer un message à la population de Gaza, de lui dire que le monde ne l'a pas oublié. Ce sont les mots de la militante et écologiste suédoise Greta Thunberg avant d'embarquer dans le port de Bizerte, dans le nord de la Tunisie. En Turquie, des dizaines de milliers de personnes ont participé dimanche à Ankara à une manifestation du principal parti d'opposition turque, le CHP, dans l'attente d'une possible destitution par la justice de la direction. Formation qui se retrouve plus que jamais dans le viseur du président Recep Tayyip Erdogan. La Roumanie a convoqué l'ambassadeur de Russie après l'intrusion d'un drone dans son espace aérien lors d'une attaque contre l'Ukraine, dénonçant une nouvelle menace pour la sécurité de la mer Noire. Les renseignements ukrainiens revendiquaient deux opérations de sabotage contre le réseau ferroviaire russe, ayant fait au moins 3 morts. En Asie, la Corée du Nord a rejeté les appels américains au désarmement nucléaire, affirmant que son statut d'état nucléaire est irréversible et inscrit dans la loi. La Chine et les États-Unis ont entamé dimanche à Madrid un nouveau cycle de négociations commerciales portant notamment sur l'application TikTok et les droits de douane punitifs que Donald Trump menace d'imposer. Et puis enfin, du sport et politique. Le Tour d'Espagne en cyclisme a été interrompu hier à Madrid après l'irruption de centaines de manifestants pro-palestiniens. La police a dispersé la politique avec des gaz lacrymogènes. Et puis en basket, l'Allemagne a remporté son deuxième titre européen 2 ans après la Coupe du Monde 2023 en s'imposant hier à Riga en Lettonie dans les dernières secondes face à la Turquie. Score final 88-83. C'est la fin de votre point d'actualité. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Notre dossier du jour consacré à la situation politique en Turquie. Un tribunal d'Ankara reporte au 24 octobre sa décision sur une possible destitution pour fraude de la direction de la principale formation de l'opposition turque, le CHP. D'ailleurs, des dizaines de milliers de personnes sont descendues hier dans les rues pour soutenir le parti, un rassemblement à l'appel de ce mouvement d'opposition. Le CHP, donc le parti républicain du peuple social-démocrate, qui rejette les accusations de fraude et estime que les autorités tentent de l'affaiblir par un procès politique, François-Xavier.
Et oui, déjà le 2 septembre, un tribunal a destitué la direction de la branche d'Istanbul, du CHP. Il est accusé d'avoir acheté des votes au cours de son congrès provincial. Cette décision a été largement perçue comme pouvant faire jurisprudence. Elle a déclenché de vives protestations. Elle a aussi entraîné une chute de 5,5% de la bourse.
Et si le tribunal d'Ankara déclarait les résultats du congrès du CHP nul et non avenu, cela pourrait annoncer le retour de son ancien leader.
Oui. Son nom, Kemal Kilic Daroglu, un homme qui a accumulé une série de défaites électorales, des défaites qui ont plongé le parti dans une crise. Alors, en vue de la décision judiciaire qui était prévue ce jour et dans une tentative de protéger sa direction, le CHP avait convoqué un congrès extraordinaire ce 21 septembre. Si le tribunal destituait la direction actuelle du parti, alors ses membres auraient pu tout simplement la réélire ce jour-là. Seulement voilà, la décision de justice aura lieu plus d'un mois plus tard, le 24 octobre prochain. Pour de nombreux analystes, cette affaire s'apparente à une tentative des autorités turques de saper le plus ancien parti politique de Turquie, parti qui a remporté une large victoire contre l'AKP du président Erdogan aux élections locales de 2024, parti aussi qui gagne en popularité dans les sondages, popularité qui a augmenté depuis qu'il a organisé les plus grandes manifestations de rue en Turquie en une décennie, des manifestations déclenchées par l'emprisonnement en mars dernier de son candidat à la présidence de la République, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu.
Et des spécialistes notent la fébrilité grandissante du pouvoir turc face à l'opposition. C'est le cas de Jean Marcoux, professeur émérite à Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. On l'écoute.
L'AKP fait face à la fois à l'usure du pouvoir, à une crise économique et sociale qui a peu à peu rongé, si vous voulez, son influence qui paraissait intacte pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ses revers électoraux, les sondages indiquent quand même une fatigue de l'AKP face à ce parti, cette opposition, qui s'est en outre reconstitué au niveau local en prenant la direction de municipalités qui sont très importantes, hein, parce que les villes d'Istanbul, d'Izmir, d'Antalya, d'Adana sont des villes de plusieurs millions d'habitants.
Et vous évoquez la crise économique et sociale, mais paradoxalement, cela ne joue pas justement ce qui se déroule en ce moment en Turquie contre l'économie. On s'en souvient, le 2 septembre dernier, un tribunal a destitué la direction de la branche d'Istanbul, hein, du CHP, le Parti républicain du peuple social-démocrate, et cela a fait chuter la bourse de 5,5%, et cela a aussi déclenché de vives protestations. Bref, impact social, impact économique.
Oui. C'est sûr, en même temps, ces derniers temps, il y a un léger redressement de l'économie turque, notamment au niveau de l'inflation, au niveau des investissements. Les effets sont contrastés. Il reste que, comme vous le disiez, il y a une fébrilité parce qu'il y a une sorte d'urgence. Alors, urgence qui n'est pas simplement en termes d'influence politique, mais qui est en même temps aussi en termes de réalité constitutionnelle. Je veux dire par là que le président actuel, Recep Tayyip Erdogan, théoriquement ne peut pas se représenter à une nouvelle élection présidentielle, puisque théoriquement la Constitution explique qu'il ne peut faire que deux mandats. Or, il en est déjà à son troisième mandat parce que sous l'effet d'une bizarrerie constitutionnelle, c'est-à-dire que la révision qui a créé ce système présidentiel où on a droit à deux mandats n'a été faite qu'en 2017, donc on a remis les pendules à zéro et on ne compte finalement les mandats que depuis 2018. Mais quand on regarde bien, Recep Tayyip Erdogan a fait déjà trois mandats et il a été antérieurement, avant 2014, premier ministre de 2002 à 2014. On a un président effectivement qui est au pouvoir maintenant depuis plus de 20 ans et qui constitutionnellement a un peu épuisé ses mandats. Donc il y a aussi, au-delà même de cette pression qu'exerce sur le régime la montée en force de ce parti d'opposition, il y a ce problème constitutionnel qui se pose et qui concerne, alors je dirais, une question qui est beaucoup plus vaste, c'est comment Recep Tayyip Erdogan va-t-il s'y prendre pour pouvoir postuler à un nouveau mandat.
Quelles sont les franges de la population turque qui soutiennent aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan?
Je crois qu'il a, au-delà de cette de érosion de son influence, il conserve malgré tout une influence au sein même de cet électorat de néo-urbains, principalement anatoliens, ce qui ne veut pas dire nécessairement rural, parce que l'Anatolie compte énormément de grandes villes, mais j'allais dire de grandes nouvelles agglomérations qui se sont constituées au cours des dernières décennies et qui ont justement été le terreau de l'influence de l'AKP et de son arrivée au pouvoir.
Est-ce que pour le moment, ce parti d'opposition, le CHP, ce parti obtient des victoires dans les municipalités, des victoires lors des élections locales, pas encore des victoires au niveau national?
Oui. Il a principalement concrétisé son renouveau, parce que c'est un vieux parti qui a été créé par Mustafa Kemal Atatürk, qui a d'ailleurs été longtemps le parti unique en Turquie jusqu'au milieu des années 40, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce parti qui avait été bousculé, bien sûr, par l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, mais qui est parvenu à rester finalement le principal parti de l'opposition, donc indiscutablement à réaliser un renouveau, et ce renouveau se traduit notamment par son influence municipale. Et quand on dit influence municipale, c'est pas négligeable, parce que ces municipalités sont des grandes villes, en particulier des grandes villes de la façade égéenne méditerranéenne de Turquie, et Istanbul et Ankara, donc les deux plus grandes villes du pays. Ceci étant, effectivement, il n'est jamais parvenu, bien évidemment, à concrétiser cette influence, enfin en tout cas ce renouveau, dans des élections nationales, en particulier présidentielles et législatives.
C'était Jean-Marc Coux, professeur émérite à Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Merci beaucoup d'avoir suivi notre rendez-vous d'information avec François-Xavier de Calonne et Wallis Glaise. Moi-même, merci à Bizri pour la réalisation. Bonne suite des programmes. Je vous retrouverai à 17h. Soyez au rendez-vous.